Chapitre 12. Le dernier visiteur. Peu après, nous passions dans la salle d'attente précédant le bureau de M. Castagnier et qui allait servir aux magistrats pour les interrogatoires. Autour d'une table s'assirent les secrétaires. Derrière, une autre table, plus petite, prirent place le juge d'instruction et M. Ramard. Martin Dumas se mit sur une chaise un peu en arrière, à côté de son chef. Ainsi, sans prendre part aux interrogatoires, il pouvait admirablement en suivre les péripéties et examiner à son gré les personnes qui défileraient devant les magistrats. L'interrogatoire commença par les moindres, les employés de la banque. C'était pour ainsi dire une pure formalité obligatoire, car leur déposition ne fut d'aucun intérêt et ne révéla rien. Ils dirent tous à peu près la même chose. Ils se disposaient à partir, achevaient leur travail de la journée, l'heure de la fermeture des bureaux allait sonner, quand ils furent attirés par les cris d'effroi, les appels de Mademoiselle Jeanne, la seconde fille du patron. Ils accoururent à la suite des divers chefs de service et pénétrèrent dans le cabinet de M. Castagnier, où les attendait le terrifiant spectacle que l'on connaît. Les chefs de service confirmèrent à leur tour ces dispositions. On fit venir ensuite, un par un, les employés et les garçons qui avaient relevé les corps. Ils firent tous, dans des termes différents, la même déposition. Je remarquai que, lorsque chacun d'eux entrait dans la salle d'attente et s'approchait de la table des magistrats, Martin Dumas l'enveloppait d'un coup d'œil. Il étudiait son homme, le devinait et le classait. Puis, comme indifférent, il baissait son regard, examinait sans en avoir l'air, mais très sérieusement, sa chaussure. Et il écoutait ensuite, immobile, impassible, sa déposition. « Il me semble, fit observer M. de Cabessin, qu'il nous manque quelqu'un que nous devons interroger. »« Ah, en effet, dit M. Ramard, nous n'avons pas vu M. Morrison, le caissier principal. » On pria M. Portez, le chef de la comptabilité, de revenir. « Savez-vous où est M. Morrison ?» lui demanda le juge d'instruction. « Non, monsieur, je suis même très étonné de ne pas l'avoir vu encore. C'est certainement la première fois de sa vie que M. Morrison n'est pas à l'heure. » « M. Morrison est un bon employé ?»« Oh, monsieur le juge, mais c'est l'employé modèle, ancienne école, vivant son métier. » Mourant à son poste. Il est âgé. Du même âge que M. Castagnier. Il y a longtemps qu'il est dans la maison. Depuis que la bande Castagnier existe, c'est lui qui l'a fondée avec le patron. Vraiment? Oui, c'était deux amis, étant du même pays, des environs de Toulouse, ayant été à l'école ensemble. Continuez, que savez-vous encore sur M. Morrison? Oh, c'est la ponctualité, l'honnêteté, l'intégrité en personne. M. Castagnier, lui, s'aimait beaucoup, se tutoyait, quoique M. Morrison se tint toujours à sa place, scrupuleusement, surtout devant nous. Loin de tirer avantage de cette situation exceptionnelle, M. Morrison travaillait tout le temps, donnait l'exemple, faisait marcher la maison. M. Castagnier s'occupait surtout d'opérations de bourse, d'affaires qu'il traitait dehors et que M. Morrison, ici, faisait produire. Ah, je comprends. M. Morrison possède sans doute quelque fortune. Oh non, monsieur le juge. Ah bah, Oh, il n'a que ses appointements de caissier. Il n'a aucune part dans les bénéfices de la maison. Son ami ne l'a intéressé dans aucune affaire heureuse. Non, monsieur le juge, non. Oh, je puis dire, sans ternir la mémoire du défunt, qui était d'ailleurs un bon patron pour nous tous, qui était extrêmement dur pour l'argent. L'argent rentrait chez lui comme le poisson dans une masse de fer en bande, en masse, et ne sortait que difficilement de ses mains. M. Morrison, qui encaissa un par un les millions de son ami d'enfance, resta pauvre. Sa fille donnait même des leçons de piano. Le juge d'instruction demanda: À votre avis, M. Morrison n'est pour rien dans le drame qui s'est déroulé ici? Oh, monsieur le juge, s'écria monsieur Barthès, monsieur Morrison, un brave et loyal homme, incapable de la moindre faute. S'il n'est pas là encore, c'est que probablement il est chez lui, malade, écrasé par l'émotion. Nous allons le savoir, nous vous avons envoyé chez lui. Merci pour vos précieux renseignements. Le chef comptable se retira. En attendant, monsieur Morrison, dit le chef de la sûreté, posons quelques questions à Désiré. On fit entrer Désiré et le garçon de bureau. C'était un brave homme, à forte moustache grise, la médaille militaire sur la livrée. Depuis de longues années, il était dans la banque Castagnier. Très ému, il s'assit sur la chaise que l'un des agents plaça pour lui devant le bureau des magistrats. C'est vous, lui dit M. de Capestin, qui introduisez les personnes demandant à être reçues par M. Castagnier. Avez-vous hier introduit auprès de votre maître quelqu'un qui ait plus particulièrement attiré votre attention? Non, monsieur le juge, non. D'ailleurs, on pourra probablement retrouver leur nom. Je demandais une carte de visite où je faisais inscrire le nom sur une fiche que je transmettais à monsieur. Mais monsieur, pour ne pas encombrer son bureau de bouts de papier, avait l'habitude, une fois le visiteur passé, de déchirer la carte ou la fiche, d'en jeter les morceaux dans sa corbeille à papier ou dans la cheminée. Donc, s'il ne les a pas brûlés hier, on saura par les fiches et les cartes qui est venu. C'est exact, fit le juge en se rappelant que Martin Dumas avait précisément ramassé près de la cheminée des petits carrés de papier. Il demanda ensuite au garçon: Parmi ces visiteurs, dont certainement quelques-uns étaient connus de vous, aucun n'attira particulièrement votre attention? Non, monsieur le juge. Connaissiez-vous celui qui vous avait fait entrer le dernier chez M. Castagnier? À cette question, Désiré tressaillit. Oh, le dernier! S'écria-t-il. Le dernier! Oui, en effet, monsieur le juge, vous faites bien de me demander cela. Cela me fait rappeler. Oui, c'est curieux. Voyons. Mais le dernier, c'est un monsieur très bien mis. Martin Dumas dressa l'oreille et je pressentis sur ses lèvres une question. Avait-il des bottines vernies? Mais il se tut cependant. Désiré poursuivit. Grand, mince, mais paraissant très robuste, beau garçon, une moustache noire relevée et des yeux clairs qui brillaient. On eût dit un militaire en civil. Ça se reconnaît facilement. Je crois même qu'il avait à la boutonnière un ruban rouge. Oui, rouge, je crois. Il était très brun, mais d'un brun que donne le soleil. Il devait arriver des colonies. Ensuite, quand je lui ai demandé d'inscrire son nom sur l'affiche, il m'a tendu sa carte. Vous n'avez pas lu cette carte? Ma foi, non. Vous avez porté cette carte à M. Castagnier? Oui, monsieur le juge, sur un plateau, comme chaque fois. et j'attendis la réponse, parce qu'il était tard et que l'heure de visite était passée. Mais M. Castagnier, qui parlait avec un autre visiteur, lut la carte. Et que dit-il ? Ben, je croyais qu'il allait me répondre, de dire à ce visiteur de revenir. Et monsieur, au contraire, s'est écrié avec joie. « Ah, il est là, bon, priez-le de m'accorder une minute. » Bien, et ensuite, le client qui était avec monsieur se levait comme je sortais du bureau pour prendre congé. Et j'entendis monsieur qui disait « C'est le fils d'un de mes vieux amis que j'aime beaucoup, qui vient de loin et que je n'ai pas vu depuis longtemps. Vous m'excuserez, à demain. » Et ensuite, bien, j'ai transmis la réponse à ce monsieur. Il se tenait debout dans notre salle et frisait sa moustache. « C'est bien, me dit-il, merci, j'attendrai. » Alors je suis sorti, je suis revenu à ma table où je pèse les lettres et la correspondance pour le départ de la poste. « Ce n'est pas vous qui avez introduit alors ce visiteur ?»« Non, monsieur le juge. » « Monsieur ne m'a pas sonné. C'est lui qui est allé ouvrir cette porte et qui a fait entrer ce monsieur dans son cabinet. Vous n'avez rien entendu ensuite ? Rien ? » L'entretien dura longtemps. « Non, monsieur le juge, 10 minutes, peut-être un quart d'heure. » Et ce visiteur est sorti. Alors ici, ça m'a étonné un peu. Il est sorti, non par la porte du bureau de monsieur, qui donne sur les escaliers, comme tous les visiteurs sortent quand monsieur les reconduit. Et par où est-il sorti ? Bien, par la salle d'attente où je l'avais fait entrer, comme si monsieur Castagnier ne l'avait pas reconduit, et s'il ne connaissait pas d'autre chemin. Vous n'avez rien remarqué chez lui ? Non, monsieur le juge. Passa devant moi, raide, d'un pas nerveux. Il avait son chapeau sur la tête et il porta, en passant devant moi, quand je me levais, la main au rebord, comme pour les officiers, quand il rendait un salut à un soldat. Avait-il des gants ? Oui, monsieur le juge, oui. Monsieur de Capestan, pressentant peut-être la pensée secrète de Martin Mumma, demanda au vieux serviteur. Avez-vous remarqué les chaussures de ce visiteur ? Que portait-il ? Des bottines vernies ? Cette déclaration produisit une profonde sensation. Merci, fit M. Capestan. Vous pouvez vous retirer. Prévenez-nous dès que M. Morrison sera arrivé. Quand Désiré fut sorti, le juge d'instruction dit en souriant « Il nous fallait, comme dans tous vos crimes très parisiens, le mystérieux, l'indispensable jeune homme brun. Nous l'avons !»